Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bonjour et bienvenue dans Éveil et Sortilège. Aujourd'hui, on se plonge dans un ouvrage qui est une vraie pépite. Le musée des sorciers, mages et alchimistes, de Griot de Givry.
Bonjour. Oui, et c'est un livre fascinant, parce que, comme le dit la préface, ce n'est pas juste un catalogue de superstitions.
Non, pas du tout. L'idée, c'est de nous offrir un atlas des écarts de l'esprit humain. On va donc essayer de comprendre ce que ces croyances, ces pratiques, nous disent sur nos peurs et nos désirs les plus profonds.
C'est exactement ça. Le livre ne nous demande pas d'y croire. Il nous invite à comprendre la logique de ces anciens systèmes de pensée. C'est un voyage, en fait, dans une époque où le surnaturel était une force bien réelle.
Une force avec laquelle on pouvait négocier.
Ou pactiser, oui. Alors, commençons cette visite du musée par la galerie la plus célèbre, on va dire. Hein.
Celle du sorcier.
Le livre le définit de manière très simple. Sa fonction, c'est de jeter des sorts. Il est un peu le miroir inversé du prêtre. L'un appelle la bénédiction, l'autre, la malédiction. C'est une lutte de pouvoir, quoi.
Et au cœur de ce pouvoir, il y a l'acte fondateur, le point de non-retour.
Le fameux pacte avec le diable.
Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que les récits ne le présentent pas comme une vague idée. C'est traité comme un acte quasi juridique.
Ah oui, c'est très formel. Il y a cette histoire de l'historien Palma Caillé. On aurait retrouvé après sa mort son contrat en bonne et due forme, signé avec son propre sang.
C'est ça qui est glaçant. Ce besoin de formaliser, de mettre sur papier un accord avec l'enfer.
Comme pour y mettre un semblant d'ordre. Et il y a aussi l'histoire de Pierre d'Abano, qui aurait gardé 7 démons dans une bouteille pour qu'il lui enseigne les 7 sarts libéraux.
L'idée que la connaissance suprême ne s'obtient que par la transgression, c'est un thème très puissant ça, absolument. La connaissance est vue comme dangereuse. Le livre cite un dialogue en vieux français où le diable dit à un certain Théophile une chose toute simple: « Or, joins tes mains et s'y deviens mes hommes. Maintenant, joins tes mains et deviens mon homme. »
C'est le rituel d'allégeance féodale, en fait. On ne fait pas que vendre son âme. On devient le vassal du prince des ténèbres. L'image est, oh, elle est terrible. Et cette allégeance, elle mène au grand rassemblement des sorciers. Le sabbat.
Oui. Et là aussi, le livre tord le cou aux idées reçues. Ce ne sont pas quelques marginaux qui se réunissent dans les bois.
Non, les chiffres qu'il donne sont hallucinant. On parle de 30 000 sorciers à Paris sous Charles IX. 100 000 en France. C'est fou.
Que les chiffres soient réels ou qu'ils reflètent l'ampleur de la peur, peu importe. Ce qui est dingue, c'est la composition de ces assemblées.
Oui, c'est peut-être le plus surprenant. L'auteur insiste là-dessus. Au sabbat, toutes les barrières sociales tombent. On y trouve des mendiants, des artisans, mais aussi des bourgeois, des princes, des princesses. C'est une sorte de contre-société. La seule démocratie de l'époque, mais une démocratie démoniaque.
Exactement. Face au diable, tout le monde est égal. C'est une idée profondément subversive pour l'époque.
Parlons un peu logistique. Comment est-ce qu'on se rendait au sabbat? On pense tout de suite au balai.
Oui, mais le livre est plus précis. Il parle d'un onguent que les sorcières s'appliquaient sur une vergue de bois.
Et j'aime beaucoup la petite touche de réalisme que l'auteur ajoute à ce sujet.
Ah oui, il précise, avec un humour un peu noir, que ce n'était pas un moyen de transport très sûr.
Surtout pour les débutantes.
Voilà, il avait des accidents, des chutes. Ça ancre le fantastique dans une sorte de quotidien, c'est ça qui est fort. Et puis il y a l'autre pouvoir terrifiant, la métamorphose. L'histoire du chasseur en Auvergne est un chef-d'œuvre de nouvelles d'horreur. Ah oui, elle est terrible. Il se bat contre un loup, il lui tranche une patte.
Et quand il rentre chez lui, il veut montrer son trophée. Il sort la patte de son sac et c'est une main de femme.
Avec une alliance.
Et au même moment, il trouve sa propre femme, le bras en sang, la main coupée.
C'est incroyablement efficace, parce que le monstre, ce n'est plus une bête dans la forêt. Le monstre est dans ta maison.
La méfiance devient absolue. Restons sur les sorts. Le livre fait une distinction entre les sortilèges nuisibles et les...
utiles. Le plus redoutable, c'est l'envoûtement, bien sûr.
L'envoûtement à mort. On fabrique une petite statue de cire, la djid, et tout ce qu'on lui fait subir, la victime le ressent à distance.
Et ce qui est fou, c'est de voir que ce n'est pas juste une croyance populaire. C'est une menace prise très au sérieux au plus haut niveau de l'État.
Totalement. On a l'affaire de Cosme Ruggerier, l'astrologue de Catherine de Médicis, qu'on accuse d'avoir fabriqué une figurine du roi Charles IX pour le tuer.
Et tout le monde y croit. Ça devient une arme politique, en fait. Une accusation d'envoûtement, c'est impossible à contrer.
Et on voit la même panique en Angleterre quand on trouve une poupée de cire de la reine Elisabeth avec une épingle dans le cœur. C'est la crise à la cour. Donc la magie invisible est un vrai facteur géopolitique.
Absolument. Mais comme tu le disais, il n'y a pas que la magie noire. Il y a aussi des sorts pour guérir, pour éteindre des incendies.
Ou pour contrôler les éléments. L'auteur cite l'historien Olaus Magnus qui détruit les sorciers scandinaves.
Oui, et pour des peuples de marins, contrôler le vent, ce n'est pas un petit tour de magie. C'est le contrôle de l'économie, de la survie.
Ils vendaient les vents, c'est ça, hein, enfermés dans des sacs.
Voilà, avec trois nœuds, c'était un pouvoir très concret, très tangible. Bon, quittons ce monde des sorciers, assez viscéral, pour une autre aile du musée. Une aile plus savante, plus intellectuelle. Celle des mages. Là, on change complètement d'univers. Le mage, lui, ne cherche pas à commander aux démons. Il cherche à lire les secrets de l'univers.
Et son outil principal pour ça, c'est l'astrologie. C'est ça. Le principe est simple. L'être humain, le microcosme, est le reflet de l'univers, le macrocosme. Donc, en lisant la carte du ciel au moment de la naissance, on peut déchiffrer une destinée. Mais ça pose tout de suite la question philosophique immense du libre arbitre. Si tout est écrit dans les étoiles,
où est notre liberté ?
Exactement. Et j'adore la citation de Molière que le livre rapporte pour se moquer un peu de cette idée.
Ah oui, elle est géniale.
Un personnage dit en gros à un astrologue « Si le ciel a prédit que j'épouserai l'un de mes deux prétendants, ça veut dire qu'il a aussi écrit tout ce qui ne va pas arriver. » C'est une façon très fine de pointer l'absurdité d'une prédestination totale. Et ça montre que l'esprit critique existait déjà, bien sûr. Mais l'astrologie, ce n'est qu'un des arts divinatoires que le livre explore.
Oui, il y en a plein. La chiromancie, par exemple, la lecture des lignes de la main. L'exemple de la main de l'emprêtresse Joséphine est frappant.
On y voit des étoiles pour la gloire, mais aussi la marque de Saturne pour les violents chagrins. C'est toute sa vie dans sa paume.
C'est ça. Et il y a la cartomancie aussi, le tarot. Le livre explique un peu le symbolisme de quelques cartes. Le pendu, c'est la prudence.
Le diable, la force aveugle.
La maison Dieu, la ruine.
Chaque carte est un miroir, en fait.
C'est plus un outil d'introspection qu'une prédiction, au fond. Et puis, on a des choses plus terre-à-terre, comme la rhabdomancie et l'art des sourciers.
Et là, ce que j'ai trouvé super, ce sont les gravures du livre. Elles ne montrent pas juste un type avec sa baguette, elles détaillent les différentes manières de la tenir, les postures.
C'est présenté comme un vrai savoir-faire technique. On entre vraiment dans le concret de la pratique. Ce qui nous amène à la dernière galerie de ce musée, la plus secrète, le laboratoire des alchimistes. On quitte les étoiles pour revenir à la matière, au feu des fourneaux.
Et l'image qu'on a tous en tête, c'est le vieux savon qui veut changer le plomb en or pour être riche. Mais le livre nous dit que c'est...
une vision très réductrice.
C'est même un contresens total. La transmutation des métaux, c'était une allégorie. Le vrai but, le grand œuvre, c'était une transformation intérieure.
Spirituelle.
L'alchimiste travaillait la matière pour se travailler lui-même.
Voilà pourquoi le livre affirme que le récit de la Genèse est la plus grande page d'alchimie. Pour eux, si on comprend comment Dieu a créé le monde, on a la clé de toute transformation.
Donc, quand il parle de soufre et de mercure, ce ne sont pas les éléments chimiques qu'on connaît.
Non, pas du tout. Ce sont des principes philosophiques. Le soufre, c'est le masculin, l'actif, le solaire. Le mercure, c'est le féminin, le passif, le lunaire.
Et le but est de les unir.
De les purifier et de les réunir en un équilibre parfait. C'est ce que symbolise l'image de l'androgyne hermétique qu'on trouve dans le livre, un être qui réunit le soleil et la lune, le masculin et le féminin.
C'est une quête d'une ambition folle. Mais le livre ne tombe pas dans l'angélisme. Il y a cette gravure de Bruegel qui est un vrai retour sur Terre.
Oui, elle est essentielle. Elle montre l'échec. L'alchimiste qui n'a cherché que l'or, le gain matériel. Sa famille est ruinée et tout le monde finit à l'hospice.
C'est un avertissement très clair.
Si tu fais ça pour les mauvaises raisons, tu finiras dans la misère. La dimension spirituelle n'est pas une option, c'est la condition du succès.
Quel voyage! On a l'impression d'avoir exploré un continent perdu de l'esprit humain. Des rituels des sorciers, au calcul des mages, jusqu'au fourneau des alchimistes.
Et l'idée finale de l'auteur, c'est que connaître ce monde n'est pas juste un passe-temps. Il nous dit qu'il vaut mieux apprendre ce qu'était la magie ancienne que de subir inconsciemment les maléfices de la sorcellerie moderne.
C'est une invitation à aiguiser notre esprit critique, en fait.
Exactement. Comprendre les anciens mécanismes de manipulation pour mieux déceler ceux d'aujourd'hui. Et c'est là que ça nous parle directement. Après cette plongée, on peut se poser la question. Est-ce que ces pratiques ont vraiment disparu? Ou est-ce que les algorithmes qui prédisent nos désirs, les publicités qui nous charment, les discours qui nous envoûtent, ne sont pas simplement les nouvelles formes plus subtiles de la magie de notre époque? C'est une excellente question pour la route. La forme a changé, mais le fond, le désir de contrôle et de pouvoir, est peut-être toujours le même. Merci de nous avoir suivis.
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.